Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne en direct jusqu'à midi. Alors ce matin Julia, quel sera notre grand dossier du jour ?
Eh bien Mélanie, on va parler d'un sujet charmant aujourd'hui, une émission consacrée à la séduction. Êtes-vous plutôt séductrice irrésistible ou éternelle bonne copine, plutôt bourreau des cœurs ou bien loser amoureux ? Séduction, c'est bien souvent quitte ou double. Et ce matin, on a décidé de revoir ensemble les bases des lois de l'attraction et on va vous poser cette question. Est-ce que vous savez draguer ? On fera le point avec Jean-Claude Bologne. Il est historien des mentalités et l'auteur du livre « L'invention de la drague » aux éditions du Seuil. Et puis avec nous également dans ce studio, il y aura Charles. Il est love coach, c'est-à-dire coach en séduction sur les réseaux sociaux.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance, ces bons plans, ces activités en vogue dénichées par nos chroniqueurs. Tout d'abord, Anouk Garnier, notre coach sportive, va nous donner tous ses meilleurs conseils pour se mettre à la course à pied. Il fait beau, c'est le moment idéal pour rechausser les baskets. Et puis on écoutera également Hervé Cabibeau du magazine 60 millions de consommateurs. Il viendra nous donner les meilleures astuces pour bien préparer nos vacances et surtout éviter les arnaques.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Aujourd'hui, on vous propose une ambiance caliente, puisque notre question du jour est la suivante. Et vous, est-ce que vous savez draguer ? Et vous, Mélanie, vous savez draguer ?
Non, franchement, j'ai toujours été une piètre séductrice, mais heureusement, j'ai quand même réussi à trouver ma moitié. Alors, je suis sûre que vous, Julia, par contre, vous avez plein de talents de ce côté-là. J'espère que vous partagerez avec nous.
Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué.
Vous partagerez avec nous vos vieux trucs, hein, et puis on verra bien vos astuces imparables pour séduire l'être convoité. Mais avant ça, on va se tourner vers notre bourreau des cœurs maison.
Oui.
C'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui un sujet qui me passionne, la drague. Alors la drague, c'est quoi ? On va en parler tout au long de l'émission, revenir peut-être à l'origine. Mais j'ai demandé à d'autres spécialistes, des enfants tout simplement.
C'est quand un garçon aime une fille et qu'il essaye de faire en sorte que la fille l'aime.
Alors c'est un peu réducteur, ça peut fonctionner avec d'autres combinaisons. Je me suis tourné vers les enfants justement, mais les enfants, est-ce qu'ils y connaissent quelque chose ? Est-ce qu'ils ont un amoureux ? C'est la question qu'ils entendent le plus et je leur ai demandé à votre avis, est-ce qu'ils ont un amoureux ?
Oui, j'en ai 6, mais je vais dire mon préféré, Adrien.
Voilà, 6 amoureux, elle est belle hein, cette époque où on pouvait avoir 6 amoureux sans avoir de reproches. Voilà, je vous conseille d'arrêter après le CM2 et on va parler évidemment de drague aujourd'hui. Alors quelle est selon vous la meilleure technique de drague ? Ça c'est ce que j'ai demandé aux adultes.
Non, moi, en général, je drague pas du tout, moi. Je me fais draguer plutôt.
Alors, tout est dans le regard, la posture. Faut avoir confiance en soi, c'est hyper important, et pas bégayer.
Il y a le regard et puis des petites techniques secrètes aussi, mais j'en dirai pas plus.
Ah ben, on espère qu'on va les apprendre, les petites techniques secrètes. Et alors, je leur ai demandé également ce qui les rebutait à les draguer, parce que souvent, ils se disent, oui, il y a des gens qui me plaisent. C'est un manque de confiance et la peur du fameux râteau. Qu'est-ce qu'un râteau ? Un râteau, c'est ça, c'est quand on n'y arrive pas, justement. J'ai demandé, justement, est-ce que vous en avez souvent pris, des râteaux ? Est-ce que vous en avez mis régulièrement ?
Oui. Mais je suis très diplomate. Je joue avec les mots, donc je ne blesse pas. Mais je fais comprendre qu'il faut s'arrêter. Il faut pas y aller loin. Et ça me réussit bien, oui.
Beaucoup, je sais pas, mais oui. Mais après, j'aime pas faire ça, hein. Vraiment. J'aime pas faire ça, mais des fois, je suis obligée.
Et voilà.
Je suis obligée.
On n'aime pas, j'ai trop de demandes, je suis obligée. Alors, le dernier râteau, il ressemblait à quoi ?
Je me suis fait aborder dans la rue par quelqu'un très très petit et pas du tout mon genre. Et je lui ai fait comprendre gentiment, il voulait pas. J'ai dû mettre un petit peu le ton et j'ai vu que ça l'a attristé un petit peu. Oh. Donc je m'en voulais un peu.
Donc vous pouvez insister, voilà, si ça attriste, on sait jamais. Ça peut être une technique, on verra tout à l'heure. Et puis j'ai quand même moi-même pris mon propre râteau en faisant ce reportage. Puisque j'ai dit, et alors si on vous drague comme ça avec un micro Europe 1, vous seriez prête à tout quitter pour la personne qui vous pose la question ?
Mais il est en couple déjà.
Voilà, évidemment, c'était pour du journalisme. C'est un échec. On a tous beaucoup de choses à apprendre.
Eh bien, quel beau râteau. Merci Clément Lanoux. On va à présent détailler les choses et surtout vous révéler les secrets de la drague, la vraie, celle qui fonctionne tout en finesse, et ce, depuis la nuit des temps, avec nos invités. Et pour nous éclairer sur le sujet, Jean-Claude Bologne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des mentalités et l'auteur du livre « L'invention de la drague » aux éditions du Seuil. À côté de vous, il y a aussi Charles. Bonjour Charles, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes love coach, c'est-à-dire coach en séduction sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Alors, on va commencer avec vous Charles. Expliquez-nous votre métier qui peut intriguer. Hein. Ça consiste en quoi exactement ? Comment on devient un expert en séduction ? On a beaucoup dragué soi-même ?
Pas du tout.
On se forme tout simplement et c'est une passion d'aider les gens. Donc moi, je me suis orienté vers les femmes, les aider à gagner confiance en elles, en estime de soi, parce que c'est la base pour la séduction, être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et les aider pour leur donner deux, trois petites astuces en séduction et on va en parler.
Jean-Claude Bologne, la drague, alors j'imagine qu'elle n'a pas été inventée avec nos générations et les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus ancien. Ça remonte à quand les premières verbalisations de ce qu'est finalement la séduction ?
Alors la séduction, ça suppose d'abord le pouvoir de dire non. Si la femme tombe dans vos bras, il n'y a pas besoin d'essayer de la séduire. Comme c'était le cas, c'est le père qui décide, c'est impossible d'approcher une femme. Donc ça commence, je dirais, avec la Grèce antique, mais attention, les femmes sont enfermées à Athènes. Donc la séduction commence avec la séduction des jeunes gens. Parce que là, ils ont le pouvoir de dire non. À Rome, où on a le premier vrai traité d'art d'aimer de Vide, ce ne sont pas les jeunes filles de bonne famille, ni les matrones, encore moins, que l'on essaie de séduire, ce sont les affranchis, donc les esclaves, qui ont retrouvé leur liberté. Donc la drague arrive au moment où la femme a le pouvoir de dire non, et depuis, elle a toujours...
Oui, oui, ça ne s'est jamais arrêté. Alors, je crois qu'à l'époque, on ne disait pas draguer, j'imagine que ça a évolué, je crois que les chevaliers avait l'art d'alourder les femmes.
Alourder, ça veut dire quoi ça ?
Alourder, toujours donné comme synonyme de séduire, et fonctionne en couple avec séduire au Moyen-Âge. Il faut prendre lourd dans le sens de niais. C'est-à-dire, on rend une femme niaise, on l'étourdit de paroles. Et moi, je dirais alourdir, c'est plutôt baratiner.
Oui, moi, j'avais pensé plutôt à un bébé, quoi.
Moi, j'avais pensé au gros lourd qui vient de...
Oui, justement, c'est pas ça, effectivement. On rend la femme niaise.
Mais dites-moi, Charles, qui sont ces jeunes femmes qui font appel à vous ? Est-ce qu'il y a des âges particuliers ? Donnez-nous un aperçu, à peu près.
On est entre 20 ans et 55 ans.
D'accord. Ah oui, c'est large, la prochaine.
C'est plutôt large, et puis avec la force des réseaux sociaux, on touche encore plus de monde maintenant, donc tout le monde s'y intéresse.
Dites-moi excusez-moi, j'ai perdu votre nom, Jean-Claude Bologne. Vous dites dans votre livre que la drague, elle est indissociable des années 50. Ça veut dire quoi ? Il y a eu un changement dans la façon de draguer à cette époque-là ?
Oui, alors la drague au sens moderne du terme et le mot date des années 50. Lorsque le mot est repéré en 1953, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Donc, il traîne déjà dans le vocabulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est les dragueurs de Mookie en 59 qui a vraiment lancé le terme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut commencer avec la fermeture des maisons closes, où les jeunes gens faisaient leur expérience. À partir du moment où ils doivent chercher eux-mêmes à faire leur expérience, il y a toute une série de techniques qui s'inventent. Alors, c'est l'époque aussi de la pénicilline, donc on n'a plus peur de la syphilis.
Ah,
c'est
oui.
L'époque de la capote, du préservatif. On n'a plus peur, moins peur des grossesses. Et donc, il y a toute une mentalité, une libération sexuelle qui permet d'autres comportements. Et puis, alors, il y a les clubs de vacances qui apparaissent à cette époque, la mixité dans les écoles, etc. etc.
Et c'est parti. Il y a du soleil et des nanas. Merci à vous, vous restez avec nous. On va continuer notre enquête sur les secrets de l'art de la séduction. On verra notamment s'il y a des lieux plus propices pour la drague, je ne sais pas, les bars, les salles de sport, par exemple. Et puis, savez-vous qu'à une époque, les lieux parfaits pour mettre en route un jeu de séduction, eh bien, le lieu parfait, c'était l'église, et oui, c'est étonnant, mais on vous expliquera pourquoi. Donc, pour en savoir davantage, je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question. Et vous, est-ce que vous savez draguer ? On en parle notamment avec Jean-Claude Bologne, historien des mentalités et l'auteur du livre L'invention de la drague aux éditions du Seuil. Avec nous également dans le studio Charles, vous êtes love coach, c'est-à-dire coach en séduction sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. J'aimerais qu'on écoute un extrait.
Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Ce sont les conseils de Jean-Claude Duss, hein, qu'on a reconnu des bronzés. Est-ce que Charles, vous validez ?
C'est un autre love coach. Hein,
exactement. Ouais. Est-ce que quelque part, il y a une vérité là-dedans ? C'est-à-dire qu'il faut ne pas trop réfléchir, aller bille en tête et sur un malentendu, ça peut peut-être marcher.
Oui, tout à fait. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Il faut se prendre ses premiers vestes pour être à l'aise.
Et c'est vrai, vous conseillez le râteau, même à répétition, avant de... Oui.
Il y en aura forcément, de toute manière. Donc, ne pas avancer par peur d'avoir un échec, c'est ne jamais y aller, au final.
Donc, vous conseillez aux femmes que vous coachez d'essayer de draguer, même si ça n'est pas la réussite assurée à chaque fois ?
Alors, les femmes, je leur conseille plutôt faire en sorte que l'homme vienne les draguer. C'est plus subtil.
Ah pourquoi ? Ça se fait toujours pas en 2022 d'aller draguer un
si,
mec ?
Si, ça se fait. Mais vu que j'ai une maman qui m'a dit bah, « les femmes sont des princesses et les hommes sont des gentlemen », j'apprends à mes abonnés de laisser les hommes venir vers elles.
Mais c'est-à-dire les inciter à venir, quoi. C'est plus
avec
subtil.
Un regard, un sourire. Mm-hmm. On laisse une porte ouverte, c'est à l'homme de faire
la
le
saisir.
Premier pas.
Bon, est-ce qu'il y a des lieux pour draguer? Justement, on en parle avec vous, Jean-Claude. Je crois qu'aujourd'hui, bon, certains se disent, allez à la salle de sport, on peut draguer, on peut draguer, je sais pas, dans des magasins. Mais je crois qu'à l'époque, il y avait des lieux plus insolites, notamment l'église. C'était the place to be pour draguer, hein, c'est ça?
Oui, mais le lieu idéal pour draguer, c'est là où il y a des femmes. Si c'est un homme qui drague, c'est le cas le plus souvent. Donc, ça peut être le puits où elles vont puiser de l'eau dans l'Antiquité, ça peut être les théâtres à Rome où la femme est un peu plus libre, et Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, l'église est un lieu de séduction très attesté. Alors bien entendu, il y a les œillades, il y a des petits cadeaux qu'on peut se glisser, y compris on a une jeune fille, parce que les femmes peuvent aussi draguer, qui introduit des tabatières sur les partitions d'un enfant de cœur. Et puis le must, ce sont les billets que l'on essaie de faire passer à l'église. Le plus bel exemple que j'ai, je resterai sur celui-là tellement il est beau, c'est Rétif de la Bretonne qui essaie de séduire une jeune fille en introduisant un petit billet dans une crevasse sur l'accoudoir de son siège, qu'il recouvre de cire en se disant, avec la chaleur du corps, la cire va fondre, elle trouvera le billet. Ça n'a jamais marché.
Ah oui, elle l'a jamais trouvé, la pauvre. Mais dites-moi, vous parliez justement du premier pas, on en parlait avec Charles tout à l'heure, et je m'offusquais qu'en 2022, on puisse pas, nous les femmes, enfin, que ce soit pas recommandé en tout cas de faire le premier pas, mais dans l'histoire, ça a toujours été les hommes qui draguaient, ou il y avait alors, des femmes un peu plus audacieuses?
Il y a parfois eu des femmes plus audacieuses, mais c'est toujours à l'homme de faire le premier pas. Simplement parce que la femme est la mère de nos enfants. Il faut qu'elle soit digne, il faut qu'elle ne trompe pas. Et une femme qui sait séduire vous donnera des cornes un de ces jours.
Oui, mais enfin bon, on peut quand même le faire.
Et alors, celles qui essaient de séduire sont souvent très mal vues. Les séductrices dans l'Antiquité. C'est Circé, c'est Salomé dans la Bible, c'est Ève, la première séductrice.
Cléopâtre aussi, c'était une coquine.
Cléopâtre, oui, c'était ailleurs. Aussi bien à Rome que dans l'Antiquité grecque, les séductrices sont toujours des étrangères, vous remarquerez. Et donc, on met en garde contre la femme qui drague.
Bon, je reviens un tout petit peu en 2022 avec vous, Charles. Beaucoup de Français et de Françaises sont inscrits sur des sites ou des applis de rencontres. Est-ce que c'est une bonne façon pour trouver l'amour? Est-ce que la séduction y est peut-être différente? C'est quoi les codes qu'il faut avoir?
Alors, j'ai environ 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et je remarque que de plus en plus, les femmes n'ont plus envie d'aller sur les sites de rencontres. Parce qu'elles estiment qu'il y a énormément d'hommes qui y sont et qui ont des mauvaises intentions, si vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, je suis pour, parce que ça reste un moyen comme un autre. Et puis, on l'a vu avec le coronavirus, on était bien content d'avoir des sites de rencontres à ce moment-là, pour au moins avoir un dialogue.
Quel conseil vous donnez pour séduire, bien séduire, on va dire, sur les réseaux sociaux? Parce que j'imagine que les conseils ne sont pas les mêmes quand on se rencontre virtuellement.
Alors, c'est un tout. Ça commence par mettre une jolie photo de profil où on voit le visage, une jolie description.
Pourquoi le visage? Que le visage?
Le visage ou le corps un petit peu, si on est à l'aise avec cela, bien sûr.
Non, mais je pensais que vous disiez le visage justement pour pas pour être bien sûr que ça soit de l'amour.
Ah, ça dépend ce qu'on met en photo.
Vous voyez
mal
partout, Julien. Ouais, je vois pourquoi pas. D'accord, donc une photo en pied.
Mais c'est une bonne question, puisque bon, c'est vrai que certaines vont montrer autre chose en photo.
D'accord, donc un beau visage, et sinon
une belle description. C'est très important, parce que ça va permettre à l'homme qui va venir vous aborder d'avoir des choses sur lesquelles rebondir pour venir vous aborder et sortir un peu du « salut, ça va ».
Et dans la rue? Parce que ça arrive de se faire aborder dans la rue. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous avez des conseils imparables?
Alors, pour les femmes, vous savez mon point de vue, on sourit, eye contact, on laisse l'homme venir vers nous. Pour les hommes, je leur conseillerais déjà de jamais commencer avec un « excusez-moi », parce qu'on met dans la tête de la femme déjà la notion de « tu me déranges ».
Ouais,
exactement.
Oui.
Lui dire que on met une contrainte de temps, je dois y aller dans 2 minutes, et vaut mieux qu'il laisse son numéro, comme ça il ne met pas la femme mal à l'aise en lui donnant son numéro.
Bon, plutôt commencer par un bonjour que par un excusez-moi, on a compris. À l'époque dans l'histoire, Jean-Claude, il n'y a pas toujours eu évidemment de coach sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'étaient pas doués dans la drague, ils demandaient conseil à qui alors, puisqu'on n'avait pas de Charles à l'époque?
Alors, c'est essentiellement les livres. J'ai lu plus de 110 manuels de séduction depuis Ovid jusqu'à aujourd'hui. Essentiellement les livres. Et puis, à certaines époques, par exemple, les comédiens. À l'époque romantique, il y a toute une série de trucs pour pâlir à volonté, pour pleurer à volonté, pour s'évanouir.
Génial.
Ah oui. Et le vocabulaire est comme cela. Il peut y avoir, on peut le faire sans répétition. On est en représentation. Il y a une mise en scène et tout ça apparaît dans les trucs. Alors il y a aussi des conseils pour se suicider en se ratant, parce que c'est très important de se rater.
Ah bah oui, autrement c'est compliqué pour la séduction. Bon, alors imaginons, Charles, hein, on a écouté vos conseils, on s'est pas excusé d'aborder une jeune femme dans la rue. On a son numéro de téléphone, ou d'ailleurs la jeune femme a le numéro de téléphone du garçon. On en voit quand le premier message? Est-ce qu'on l'envoie tout de suite en rentrant ou est-ce que la fameuse règle des 3 jours est toujours d'actualité?
Elle est toujours d'actualité, elle est bien ancrée dans la tête des gens, malheureusement. Moi, je suis contre.
C'est-à-dire?
Parce qu'on rentre déjà dans une sorte de manipulation. Tu as envie d'écrire, tu écris. Tout mêle à la personne qui veut être avec toi, elle fera tout pour être avec toi. Et c'est un jeu qui se lance. Donc si dès le début, déjà, il y a une comédie qui se met en place, j'attends 3 jours pour t'écrire.
Oui, mais si j'ai envie d'envoyer 18 textos par jour à la personne que je viens de rencontrer, je me calme ou pas?
On va commencer par un déjà, ouais. Et on va voir comment ça va se passer.
Ouais.
Une technique, ça pourra servir à vos auditrices, la technique du miroir. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous calez sur le rythme de l'homme. S'il envoie des très courts messages, alors que tu envoies des longs messages, tu vois la différence d'intérêt, donc tu te cales. Tu réduis la taille
donc
de tes messages.
Donc il m'envoie bonjour, je réponds bonjour.
S'il n'envoie que des onomatopées, vous faites pareil. Ah, oh.
Oui, mais on veut un homme qui ait de la conversation.
Bien oui. Sûr, donc il faut ça l'inciter filtre. À aller plus loin un petit peu à un moment donné. Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre cette émission du jour. Comment draguer, séduire sans être lourd, ridicule et surtout comment faire pour que ça fonctionne, pour faire succomber l'être désiré. D'ailleurs, parfois, ce n'est pas facile hein, de savoir si le charme a fonctionné, si on a vraiment réussi à séduire l'autre. Quels sont les signaux qui sont de bon augure? Pourrait-on peut-être s'inspirer des codes de la séduction au Moyen-Âge ou de la Renaissance? On va en parler aussi dans quelques minutes sur Europe 1, alors ne bougez pas.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et vous, est-ce que vous savez draguer, séduire, faire la cour dans les règles de l'art? C'est notre question du jour et on tente d'y répondre avec nos spécialistes. Alors Charles qui est love coach, c'est-à-dire coach en séduction sur les réseaux sociaux. Et puis à vos côtés également, Jean-Claude Bologne, historien des mentalités et l'auteur du livre « L'invention de la drague » aux éditions du Seuil. Jean-Claude, une petite anecdote historique en matière de drague. Au XVIIe siècle, je crois qu'on regardait la façon dont la femme tenait son éventail. Pourquoi ça?
Oui, lorsque la femme ne peut pas parler directement, il y a des codes. Alors, le code de l'éventail, il est surtout développé au XIXe siècle, mais l'éventail existe depuis le XVIe, XVIIe siècle. Si vous touchez la bouche avec votre éventail, c'est déjà la marque d'un petit désir. Si vous ouvrez 3 lames, ça veut dire que vous êtes amoureuse. Vous pouvez même fixer un rendez-vous avec l'éventail. Oh. Ça, ce sont les codes du XIXe siècle.
Comment ça?
Alors, comment cela? Alors, d'abord, il faut approcher lentement. Vous le laissez tomber. Si l'homme le ramasse de la main gauche, il y a des chances. S'il ramasse de la main droite, n'allez pas plus loin.
Ah, c'est génial, ça.
Et à ce moment-là, vous le ramassez aussi de la main gauche. Et puis, vous donnez des jours en tapant avec l'éventail dans la main. 3 coups, venez dans 3 jours.
Ouais.
L'heure se fait sur l'index pour les heures du matin et sur l'auriculaire pour les heures du soir.
Donc on frappe avec l'éventail sur l'un ou l'autre pour donner l'heure.
Voilà. Enfin,
c'est incroyable. Pas grave, c'est le langage codé.
Il est conseillé de ne pas faire ça en dansant, parce que c'est le bal que ça se fait. Mais lorsque vous faites tapisserie et qu'il y a un jeune homme qui a attiré votre attention, ça peut très bien fonctionner.
C'est génial. Bon, aujourd'hui, les éventails, il y en a moins. Enfin, on a le droit d'en avoir, mais ce code-là, bon, vous le connaissiez, Charles?
Non. Pas du tout.
Alors justement, comment on sait aujourd'hui si quelqu'un, si on a tapé dans l'œil de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que, bon, carrément, on peut lui poser la question franco, peut-être, je te plais.
Le sourire, le fameux eye contact, le regard un peu plus insistant. Puis après, un homme qui s'y connaît un petit peu va remarquer aussi la gestuelle de la femme. Le non-verbal est très important.
C'est quoi, par exemple? Elle se touche les cheveux?
Les mains dans les cheveux, si elle te fixe, si elle te sourit, si elle est ouverte vers toi ou si elle est plutôt comme ça.
Les bras croisés,
ça sent pas bon.
Oui. Et comment savoir que la personne en face cherche la même chose que nous, c'est-à-dire l'amour et pas le sexe, justement?
Alors, il y a des signes. Un homme qui veut que du sexe aura des conversations orientées que sur le sexe. il proposera que des rendez-vous chez lui.
À 22h.
Chez la dame, exactement. Que des moitiés de rendez-vous, j'appelle ça, après 21h.
Nul.
Et il fera que des compliments sur le physique. Ça, c'est une petite astuce supplémentaire. Tout est orienté vers le physique.
Oui. Mmh. Bon, je préfère comme l'éventail, hein, honnêtement.
C'est plus romantique. Il faut avoir des bons yeux quand même. Hein.
Jean-Claude, même dans le temps, je crois qu'on ne séduisait pas de la même façon la femme de sa vie et l'éventuelle compagne d'un soir. Quelles étaient les différences?
Bien entendu. La différence, c'est que la femme légitime, c'est votre vitrine, si je puis dire. Et donc, il faut qu'elle soit respectable, sinon vous n'êtes pas respecté. Le Brantôme parle d'un gentilhomme qui, à sa nuit de noces, a trouvé que sa femme avait un petit ordillon de remuement qui n'était pas accoutumé aux femmes mariées. Tout de suite, il a dit « je serai cocu ». Donc, on ne séduit pas de la même manière, on n'attend pas la même chose. Il faut trois femmes à un homme pour être totalement comblé au XVIe siècle. Oh, excusez-moi le côté macho. Il faut la digne épouse, mère des enfants. Il faut la maîtresse de cœur. Et puis, il faut la prostituée, la courtisane, pour un sexe de qualité.
On est content d'avoir changé de siècle.
Tout à fait.
De sexe, vous vouliez dire déjà deux siècles. Ouais. C'était... Oh, mais alors, on va revenir là sur 2022. Une fois, Charles, qu'on a dragué la personne qu'on souhaite, après le premier rendez-vous, si cette personne ne donne pas tout de suite de nouvelles, est-ce qu'il faut s'inquiéter et comment réagir? Ça arrive à tout le monde, ça.
Alors, les femmes, je leur conseille toujours, et c'est là où il faut tenir bon, de ne pas écrire. L'homme, il est gentleman, est-ce que tu es bien rentré chez toi? J'ai passé un bon moment. S'il n'y a pas ce message, il y a deux possibilités. Soit la personne n'est pas intéressée, soit lors du rendez-vous, peut-être que la femme a fait une erreur, elle ne lui a pas montré qu'il lui plaisait. Du coup, il n'ose pas faire le premier pas.
Et alors, si on se dit, mince, en fait, il me plaît, mais je ne vais peut-être pas assez montrer, qu'est-ce qu'on fait si on n'a toujours pas de message?
Laissez tomber, Julien.
Ah bah, vu la tête de Charles, je laisse tomber, quoi.
Ça sent pas bon.
Ah, ouais. Bon, en pratique, Jean-Claude, avec des mots, justement, comment on séduisait? Vous nous disiez tout à l'heure pendant la pause, vaut mieux pas séduire comme au Moyen-Âge. On séduisait comment au Moyen-Âge, alors, justement?
Alors, on séduisait de façon socialement orientée. L'amour courtois, ce qu'on appelle l'amour courtois, le jeune chevalier qui veut séduire une femme de grande condition, d'abord, il s'adresse à sa raison. Parce que s'adresser au sens de la femme, c'est la mépriser. S'adresser à l'émotion, c'est la maîtriser. Donc, ce sont des discours du genre « Noble dame, vous tenez ma vie et ma mort dans vos mains. Donnez-moi ce que vous voulez, mais si vous me donnez la mort, ce sera très mauvais pour votre réputation, car ce n'est pas digne de votre
quelle noblesse. » Quelle drague. Vous savez que ça ne marcherait plus, une jour. Voilà.
En revanche, si c'est le chevalier qui rencontre une bergère, on lui promet mariage et on va tout de suite sur la meule de foin.
Bon, ça, j'ai compris l'idée.
Ouais. Ça va plus vite.
J'ai compris l'idée. Alors, en 2022, Charles, comme on ne parle pas comme au Moyen-Âge, on aborde quel genre de sujet de conversation quand on drague? On ne parle pas de son ex, j'imagine?
Jamais parler de son ex.
C'est quoi le sujet qui marche toujours, ouais, quoi, qui...
Les voyages.
Ah oui.
Bah oui, regardez, ça rappelle des souvenirs positifs et on peut tenir une heure. J'ai fait tel pays.
Bien
Quel
sûr.
Pays tu aimerais faire?
Ben ouais, mais j'ai fait la Thaïlande avec mon ex et paf, erreur.
Ah non, mais rajoutez pas l'ex.
Faut pas parler d'ex.
C'est ça. D'accord.
Charles, on connaît le dicton femme qui rit à moitié dans ton lit. Est-ce que l'humour, c'est une belle arme pour séduire? Vous en pensez quoi?
Ouais. Les hommes aiment les femmes qui ont de l'humour et vice-versa.
Ah bah oui.
Après, il y a humour et humour.
C'est-à-dire?
Pas être lourd.
Ça vous plaît l'humour, Julia, pour draguer?
Moi, je pense que c'est la meilleure arme de séduction, ouais, effectivement, mais peut-être que je me disais que ça serait moins apprécié venant d'une femme, même encore en 2022, mais non.
Non.
C'est vrai, une femme drôle, à moitié dans ton lit aussi?
Alors, peut-être pas à moitié dans son lit, parce qu'il y a d'autres paramètres, quand même. Mais c'est important, et puis ça détend la conversation.
Donc en gros, on vient en tête au premier rendez-vous avec des idées de voyage, enfin des récits de voyage et des blagues. Et normalement, ça devrait s'éplier, c'est emballé. Hein.
Ben voilà.
C'est bon, c'est clair. Alors aujourd'hui, pour signifier son amour, on a tendance à offrir, je sais pas, une bague, un bijou. Qu'est-ce qu'on offrait, Jean-Claude, au Moyen-Âge par exemple, ou même dans l'Antiquité? C'était pas forcément, je crois, des cadeaux très précieux. Hein.
Alors, l'Antiquité, on est dans les cadeaux précieux, les bijoux, le cheval, pour séduire un garçon. Au Moyen-Âge, c'est un peu l'inverse. On est dans une époque où l'amour courtois, on s'adresse nécessairement à une femme socialement supérieure. Les bijoux, ça ne marchera pas. Mais il faut des présents symboliques.
Par exemple,
les présents symboliques, c'est aussi important. Par exemple, des mouchoirs, des manches, des pièces de vêtements, une ceinture. Et ça marche aussi, surtout, dans dans les petites classes parce que l'homme, ça va être le protecteur. Donc s'il est prodigue et s'il dissipe ses biens, c'est très mauvais signe. Donc les épingles étaient fort prisées parce que c'est un symbole de lien. Et les fruits, donc des présents qui sont symboliquement chargés, mais qui ne sont pas trop coûteux.
Charles, dernière question, c'est quoi les signes qui doivent me dire j'arrête mon jeu de la séduction, je suis allée trop loin, je suis lourde justement et insistante?
C'est délicat parce qu'on ne sait jamais trop ce qui se passe dans la tête d'un homme, mais comme on le disait avant, n'insistez pas trop dans les messages, laissez la personne venir vers vous. On se cale sur la technique du miroir, si la personne envoie une photo, n'en envoie pas cinq, s'il envoie des courts messages, n'envoie pas un pavé. Et si on fait ces petites astuces dans la séduction, tout devrait bien se passer, parce qu'on laisse l'autre venir à nous.
Bon, et puis acheter un éventail, il commence à faire beau. Hein. Ça peut être utile, on connaît tout le code maintenant.
Épingle. Allez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin pour avec cet plaisir. Éclairage sur la avec drague, plaisir. La séduction aujourd'hui et à travers les siècles. C'était très intéressant.
Et
merci.
Oui, merci à vous deux, Mélanie. On va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord Anouk Garnier, notre coach sportive. Elle va nous donner tous ses meilleurs conseils ce matin pour se mettre à la course à pied. Et puis Hervé Cabibeau du magazine 60 millions de consommateurs sera également avec nous. Avec lui, on va parler astuces pour bien préparer nos vacances et éviter les arnaques. Eh bien, tous ces bons conseils, c'est dans très peu de temps, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Il y a déjà Anouk Garnier qui est en studio avec nous. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Alors, quel sera le thème de votre cours de sport du jour?
Ça va être de la course à pied, Mélanie.
Ça, c'est ce que je déteste le plus sur
Terre, je sais que vous n'aimez pas, mais ouais. Je vais vous expliquer comment bien reprendre.
Et aimer ça? Vous allez peut-être nous faire aimer?
Oui, je vais essayer de vous faire aimer la course à pied aujourd'hui.
On verra ça. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Anouk. Ce sera à vous dans quelques minutes. On va commencer cette séquence avec Hervé Cabibeau. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier. Alors les vacances approchent, hein, là avec la météo on ne pense qu'à ça, et vous nous donnez ce matin donc les meilleurs conseils pour éviter de se faire rouler, c'est très important. D'ailleurs, premier constat, je crois que les Français sont de plus en plus nombreux à aller sur des sites de réservation en ligne, et des sites, il y en a pléthore. Hein.
Oui, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'annonces, il y a environ 1 million d'annonces, toutes plateformes confondues, qui sont disponibles aujourd'hui, donc à portée de clic des Français. Qui sont, c'est des chiffres de 2021, 52% ont déjà fait appel à ce type de plateforme. C'est même 59% des Franciliens.
Bah oui, on adore ça.
Et Airbnb a dévoilé la semaine dernière ses chiffres mondiaux. C'est assez impressionnant. 102 millions de nuitées rien que pour le premier trimestre 2022. C'est 34% de plus que l'année comparable, donc 2019 avant le Covid.
Et donc si moi je souhaite louer sans risque, je dois faire attention à quoi? Je sais pas, par exemple, quand il n'y a pas de photo sur l'annonce, c'est mauvais signe ça ou pas?
Alors d'abord, il faut garder un peu son esprit critique quand on lit les annonces. Aucune villa de 12 pièces sur la Côte d'Azur avec piscine ne vous sera louée 300 euros par semaine.
Ah bon? Non. Donc on regarde le prix et on voit si ça correspond déjà, que ça colle.
Si vous tombez sur une annonce de ce type, c'est une arnaque.
D'accord.
Éliminez également toutes les annonces où il n'y a pas de photo. S'il n'y a pas de photo, c'est qu'il n'y a rien à voir.
Ah oui.
Il faut aussi lire entre les lignes, et ça c'est pour les petites choses. Si jamais vous devez louer un appartement qui est au 6e étage d'un appartement qu'on ne vous précise pas qu'il y a un ascenseur, c'est qu'il n'y en a pas.
Ah
général.
Oui. Voilà. Et je crois que vous avez comparé les plateformes avec le magazine 60 millions de consommateurs. Justement, moi j'ai envie de savoir si dedans il y a des bons et des mauvais élèves. Donnez-nous-en quelques-uns peut-être.
Alors, je vais citer les plateformes qu'on a regardées. C'est Abritel, Airbnb, Booking, Gîtes de France, Housetrip et Le Bon Coin. Alors, ces conditions, elles varient selon que l'on est propriétaire ou locataire. Il faut savoir que pour les propriétaires, il faut surveiller la commission. La commission qui est prise pour chaque location, c'est un peu le grand écart, c'est 15% pour Booking ou pour Gîtes de France, c'est 0% pour Le Bon Coin. Et en fait, pour le locataire, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que c'est 15% chez Airbnb et Housetrip et c'est inexistant, il n'y a pas de frais pour Booking.
Je crois qu'il y a aussi un site qui existe pour s'assurer du sérieux de n'importe quelle plateforme. C'est quoi,
ah,
ça
génial.
Alors, c'est pas vraiment. C'est surtout un site pour essayer de décrypter les annonces qui sont mauvaises. C'est surtout ça. Il faut savoir que les plateformes sont des hébergeurs, ne sont pas responsables du contenu des annonces.
Donc, on ne peut pas se retourner contre eux si on a un problème.
Non, tout à fait. En revanche, ils ont l'obligation d'en supprimer les annonces si elles sont
frauduleuses. Et c'est quoi ce site alors?
Alors, ce site, on le cite dans notre magazine.
Et ben, on l'achètera.
Voilà, c'est ça. Absolument. Je dirais que le plus important, c'est quand même de ne pas croire au Père Noël. Ça, c'est très important. Et surtout, dans tous les cas, il faudra veiller à payer sur la plateforme.
Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces gens qui échangent les habitations? C'est pratique, ça, non?
Oui, c'est très bien. C'est un concept qui nous vient un peu du monde anglo-saxon. On s'est intéressé à trois plateformes, en l'occurrence Home Exchange, Home Link et Switch Home. C'est un concept qui est basé sur la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vivent en général à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. C'est entièrement gratuit.
Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que ça coûte rien, Mélanie.
Si je suis propriétaire, ce qui est pas, enfin si c'est le cas, mais je veux pas louer ma maison, mais il y a des gens qui ont envie de louer aussi. Là, on peut se préparer à partir en vacances ou à louer son logement. Quel conseil vous donneriez à ces propriétaires qui envisagent donc de mettre en location?
Alors, d'abord d'être extrêmement précis sur l'annonce,
c'est-à-dire de mettre vraiment une photo, donc, ou plusieurs, hein.
Maximum de photographies. Être extrêmement précis, vérifier lorsqu'on a une demande que le profil de la personne, ne pas oublier de demander une caution, un dépôt de garantie. Voilà, ça c'est des choses qui sont essentielles et
vraiment très importantes. Alors je reviens sur cet échange de
vous voulez échanger vous,
non, ouais, je trouve ça super. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire si je suis pas propriétaire de mon appartement?
Vous voulez tricher aussi.
Non mais je sais pas, on n'a pas le droit en tant que locataire.
Alors comme il n'y a pas de transaction financière, il n'y a pas de sous-location. Dans ces conditions, il n'y a pas à demander l'autorisation à qui que ce soit.
J'ai le droit de le faire.
Ah, vous avez le droit de le faire. C'est un peu comme si vous receviez des amis. Bon, je vous conseille quand même d'avertir les voisins qu'une famille d'Américains qui va débarquer chez vous, qui va rester un moment. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Mais, voilà.
Mais généralement, il n'y a pas trop de mauvaises surprises sur les échanges comme ça.
C'est un système qui est basé sur la confiance. Donc, vous prenez soin de l'appartement ou de la maison qu'on vous prête. Mm-hmm. Et la personne qui est donc propriétaire de cette maison va prendre soin de la vôtre.
Oui, alors, et je crois que parfois, on n'est pas obligé de partir en même temps que ces personnes.
Oui.
L'échange n'est pas toujours simultané.
Effectivement.
Hein.
Ça sent le vécu, ça.
Non, j'ai essayé d'échanger plein de fois, mais on m'a toujours refoulé.
Bon, allez, en conclusion, Hervé, qu'est-ce qu'il faut retenir pour éviter les arnaques principales, on va dire? Donnez-nous les deux, trois conseils pour bien préparer tout ça.
Alors, je le redis, je l'avais déjà dit, mais il faut absolument payer avec les outils de la plateforme. Mmh. Puisque les petits malins, ils vont essayer de vous sortir de la plateforme pour payer, pour payer moins cher par exemple, pour éviter les frais.
Il faut
absolument le faire, puisqu'il faut savoir que les propriétaires sont payés 24 heures après l'arrivée du locataire. Mmh. Donc en cas de problème, hop, le paiement n'est pas déclenché, ils peuvent récupérer leur argent. Ça, c'est très très important. Et après, effectivement, c'est faire appel au bon sens, pas croire au Père Noël, poser des questions, ne pas hésiter à poser des questions, à interroger le propriétaire. Voilà.
Et puis parfois sur ces plateformes, il y a vous savez, les super hosts, les gens qui sont connus pour être
bien notés,
tout ça.
Voilà.
Ça, c'est pas mal aussi.
Effectivement, il faut vraiment regarder le profil de la personne.
Anne Garnier, vous échangeriez votre appartement, vous?
Avec Julien, je crois que vous êtes avec Julien. Ouais.
Vu comme je suis maniaque, vous auriez raison. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Hervé Cabibou. Je rappelle que pour davantage d'infos, pour bien préparer vos vacances, il suffit de vous procurer le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs. On passe à la chronique d'Anne Garnier. On va donc terminer l'émission dans la douceur, j'espère, parce que j'ai vu que Mélanie avait écrit dans la douleur.
Ah mince.
Puisqu'on va faire un focus sur la course à pied.
Oui, ouais. C'est vrai que là, il fait de plus en plus beau. Hein, mm-hmm. Vous l'avez dit, on a envie d'aller en vacances, on a envie d'être dehors. Et je vois de plus en plus de personnes courir. Et autre motivation, on sait qu'on va devoir enlever un peu ses vêtements là bientôt. Mm-hmm. Donc on a cette motivation de vouloir un peu sécher juste avant l'été.
Julia, on est revenu de vacances ce matin.
Qu'est-ce qu'on s'est dit le premier truc?
On s'est dit, c'est plus possible.
On se remet au sport et au gym.
Voilà, c'est ça.
Et vous voyez vraiment cet effet là, vous, en tant que coach? Ouais.
Moi qui cours dehors, je vois beaucoup plus de monde qui court. C'est marrant, quand il pleut, il y a beaucoup moins de monde. Hervé m'a dit qu'il aimait courir sous la pluie, mais
il est tout seul.
On n'est pas beaucoup à aimer courir sous la pluie. Donc voilà.
Mais pour perdre du poids, on entend qu'il faut faire du cardio. Donc on imagine que voilà, on court comme un lapin et on va dégraisser le mammouth. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre à la course à pied?
Dégraisser le mammouth. Déjà, sachez que tous les êtres humains, on est fait pour courir. Si on revient vraiment à la préhistoire, etc. On est fait pour courir, c'est notre moyen de survivre en fait, pour aller chasser, pour aller manger, plus maintenant,
pour fuir le danger.
Pour fuir le danger, etc. C'est notre moyen de survie. Donc il y a même des adaptations physiologiques de notre corps pendant l'évolution qui se sont faites pour qu'on court plus longtemps et plus vite. Donc vraiment, on est fait pour courir.
Mais il y a quand même beaucoup de gens. Je rigole quand je dis je n'aime pas courir. J'ai couru longtemps, mais je me suis souvent blessée au genou. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se blessent quand même en faisant la course à pied. J'ai l'impression.
Oui. Alors dans les chiffres, il y a un coureur sur deux qui expérimente une douleur ou une blessure tous les ans. C'est vrai que ça donne pas envie de courir, mais je vais vous expliquer. Il y a deux raisons pour lesquelles on se blesse, et c'est pas le fait de courir en fait. La première chose, c'est parce qu'on veut faire trop vite. Comme je vous ai dit, d'un coup, ah, ça va être l'été, il nous reste un mois, on veut faire 3-4 séances de course à pied d'un coup, on veut faire du fractionné, on veut tout faire. Sauf que notre corps, il est pas prêt. Donc il faut faire ce qu'on appelle une augmentation vraiment progressive du stress mécanique.
C'est-à-dire on fait ? Donnez-nous par exemple, voilà. Si j'ai rien fait pendant des mois, et là je vais m'y remettre.
Là, je vous dis, vous courez 5 minutes déjà.
On va aller marcher, Julien, en fait.
5 minutes, ouais. C'est 5 minutes par 5 minutes, j'augmente la course à pied. Et si je veux, j'alterne, par exemple, je fais 4 minutes de course, 1 minute de marche. Et je fais ça 2 ou 3 fois.
Ça, ça me plaît bien, ça.
Vous voyez, ça vous plaît, ça.
Et c'est presque du fractionné, ça.
Bah, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ça permet vraiment de laisser le temps aux tendons de se réhabituer à ces impacts-là, quoi.
Et la deuxième raison de blessure ?
La deuxième raison, c'est parce qu'on a plus le même style de vie qu'avant. On est sédentaire et on a transformé nos capacités de mouvement. Je vous ai déjà parlé de la mobilité. On perd notre amplitude complète de mouvement, on se sent plus restreint. Et du coup, en course à pied, ça va se ressentir tout de suite. Et la deuxième capacité, c'est est-ce que je suis capable de maintenir mes articulations alignées. Par exemple, est-ce que je peux tenir mes genoux? Et pour ça, il faut des muscles forts. Donc en restant assis toute la journée, ils ne sont pas forts.
Alors comment on peut faire pour les chauffer?
Alors déjà, on peut intégrer dans ces échauffements des petits exercices de mobilité pour bien s'échauffer. Alors courir doucement n'est pas s'échauffer, je fais une petite précision.
Ah bon ? Ouais. Faut forcément s'échauffer avant.
Vaut mieux faire des petits exercices de mobilité avant de s'échauffer.
Ça, c'est quoi vraiment... un exercice de mobilité ? Juste je marche ?
Ouais, je fais des petits talons, comme des petits stretching dynamiques, vous voyez, des choses
ou
comme ça.
Ou se lever tout simplement.
Ouais. Se lever déjà.
Des pas chassés, des petits pas chassés.
Non, des petits un peu comme les trucs de yoga dont je vous avais montré, des fentes un petit peu de yoga, des petits exercices dynamiques pour les chevilles, etc. Ouais, la mobilité articulaire, le fait lever le coude, lever les genoux, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, on court et vous pouvez rajouter des exercices de renforcement, soit à la fin de votre run, soit au milieu. Ça peut varier aussi votre run.
Alors, ça va être quoi ces exercices de renforcement ?
Alors, petit focus sur deux zones. Travailler pour la stabilité du genou, parce que ça va être vraiment la zone qui se blesse souvent, et le centre du corps, donc les abdos pour le dos. Pour le genou, privilégiez les exercices à une jambe, parce que si vous avez remarqué, quand on est en train de courir, on est sur une jambe à la fois. Je ne sais pas si vous avez vu cette réflexion de malade.
On va courir sur les deux jambes en même temps.
On peut pas. Donc c'est important que votre genou soit capable d'être stable à une jambe. Essayez de courir à deux jambes, Julia. Ah, ça donne donc un saut de lapin.
Elle va tomber.
Donc c'est important d'avoir vraiment un travail de renforcement sur une jambe. Par exemple, le travail de fente. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'exercice de la fente.
On l'a en tête.
On a en tête ce squat que vous pouvez faire sur une chaise, vous pouvez vous asseoir.
On rappelle le squat, hein, voilà. c'est
vous asseyez sur une chaise, donc c'est une flexion, on se met
fait comme
accroupi.
Si on allait s'asseoir, mais on s'assoit pas. Attendez, vous dites on s'assoit sur une chaise, mais elle n'existe pas la chaise.
Non, mais vous pouvez le faire sur un banc. Vous pouvez faire sur un banc si vous courez dehors.
Donc, le
par
squat,
exemple, vous êtes
fente.
Là, le squat sur une jambe, vous asseyez, vous remontez sur une jambe, vous pouvez essayer, Mélanie. Attention, avec la chaise qui roule, c'est pas... Ouais,
pas mal.
Mélanie le fait très bien.
Et pourquoi elle le fait très bien ? Parce qu'elle a des abdos. Elle
oui, aussi. Ah, ouais. Et après, vous pouvez travailler donc le renforcement avec des abdos, mais plutôt dynamique. Si vous restez juste en gainage statique, ça va pas être très efficace pour la course à pied.
Je crois que pour aller plus loin, vous donnez des conseils en ligne.
Oui, j'ai créé un programme qui s'appelle Courir sans douleur.
Génial.
Moi, je m'abonne direct. Vous pouvez aller sur mon site. Et il y a autre chose, c'est mon coach en course à pied, Sébastien Cornette, qui a créé un livre « Courir moins pour courir mieux ».
Ah, ça me plaît beaucoup, ça.
Ouais, c'est pas,
mais
c'est
moins,
pas mal.
Surtout, et pas mal.
Moins, mais mieux. Donc voilà, c'est la méthode que j'utilise moi en tant qu'athlète et c'est très intéressant.
Et dans votre programme, c'est « Courir sans douleur ».
Courir sans douleur
sur
mon site internet, anougarnier.com.
Merci beaucoup, Anouk, pour tous ces conseils. On va être super en forme, si pour une fois on se décide à vraiment les mettre en pratique. Voilà. Merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais nous serons évidemment de retour demain, dès 11h. Julien, on va s'intéresser à quoi demain ? Eh bien, demain, on va s'intéresser à notre courbe glycémique, notre taux de glucose, de sucre. Ce serait le geste le plus efficace que nous puissions faire pour notre santé. On va vous présenter une nouvelle méthode qui permettrait d'éviter les fringales, la fatigue, la prise de poids, voire même le vieillissement prématuré. C'est la glucose révolution. On vous expliquera comment tout ça fonctionne. Soyez au rendez-vous.
En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour. Quel est le programme, Romain ?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Le programme, on va parler beaucoup de ce qu'a dit Vladimir Poutine ce matin. À Moscou, il a parlé de l'horreur d'une guerre globale, qu'il faut tout faire pour empêcher, c'est ce qu'il a ajouté, bien sûr. Mais le mot de guerre globale a été prononcé, est-ce que ça vous inquiète ? C'est l'un des thèmes d'Europe Midi, on va en parler avec vous au 39-21, et avec Philippe Ballard, qui est porte-parole du Rassemblement National, et avec Anne Genetet, qui est députée La République En Marche, et sa circonscription, c'est une circonscription conscription des Français de l'étranger établie en Russie et en Ukraine. Voilà le programme.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.